Bonsoir. Projet Inga 3, l'ONG Ressources Matters, c'est que le groupe d'études sur le Congo craignent que l'électricité issue de ces projets ne bénéficie pas à la population congolaise. Dans un rapport publié lundi dernier, les deux ONG indiquent que l'électricité à produire est d'ores et déjà réservée à l'exportation et aux industries minières. Pour sa part, la présidence qui gère ces projets rassure. Elle révèle que la Société nationale d'électricité recevra une part importante de la production au profit des Congolais. Comment analyser ces rapports? C'est le débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Al Kitenge, il est stratège et analyste économique. Bonsoir, monsieur Al Kitenge.
Bonsoir, Guy Maté.
Et Emmanuel Moussouyou, il est secrétaire technique de la coalition d'ONG pour le suivi des réformes et actions publiques. Bonsoir, monsieur Emmanuel Moussouyou.
Bonsoir.
Et lui va nous rejoindre, c'est monsieur Nicolas Kazadi, l'ambassadeur itinérant et coordonnateur de la commission chargée des programmes quinquennales du chef de l'État. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La population congolaise risque de ne pas bénéficier de l'électricité du projet Inga 3. C'est ce que redoute l'ONG Ressources Matters et le groupe d'études sur le Congo dans leur rapport publié lundi dernier. D'après ces documents, la quasi-totalité de l'électricité à produire est d'ores et déjà réservée à l'exportation et aux industries minières. Quels sont les principaux écueils à une meilleure distribution de l'électricité attendue du projet Inga 3 aux populations congolaises selon ce rapport? Réponse dans ce reportage de Freddy Lufourabo.
Premier écueil, le contrat du plus gros site hydroélectrique du monde a été négocié à huis clos, selon Ressources Matters et le groupe d'études sur le Congo. Depuis 2015, en effet, l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ADEPI, une structure placée sous la tutelle de la présidence de la République, gère seule le dossier. En octobre 2018, l'ADEPI a signé un accord de développement exclusif avec le groupement Chine Dinga et le groupe Pro Inga. À majorité espagnole, l'accord n'a pas été rendu public, note le rapport. Deuxième écueil, la répartition de l'électricité d'Inga 3. Ce projet de près de 14 milliards de dollars vise à générer au moins 10 gigawatts, dont la moitié a été déjà promise à l'Afrique du Sud. Il était question de réserver 3 gigawatts à la RDC, avec un réel risque d'en accorder une grande partie aux industries installées dans le pays plutôt qu'aux habitants. Avec l'avènement à la tête du pays de Félix Tshisekedi qui a promis d'améliorer l'accès à l'électricité pour la population, selon le rapport, il est temps de recadrer Inga 3 dans une stratégie globale sur les meilleures pistes d'électrification de la RDC.
Merci à vous, Freddy Lufourabo. Emmanuel Moussouyou, je rappelle que vous êtes secrétaire technique de la coalition d'ONG pour le suivi des réformes et actions publiques. La population congolaise risque de ne pas bénéficier de l'électricité du projet Inga 3. C'est une affirmation contenue dans votre rapport. Cette affirmation est basée sur quels éléments, monsieur Emmanuel Moussouyou?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit, moi je représente la coalition d'ONG pour le suivi des réformes et de l'action publique et nous sommes en partenariat avec Ressources Matters qui a publié ce rapport ensemble avec le GEP, le groupe de recherche sur le Congo. Et donc ce rapport, bien évidemment, nous nous retrouvons dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été relevées que nous partageons, entre autres votre question sur la clé de répartition de l'énergie. Les informations qui ont circulé depuis faisaient état d'une clé de répartition qui se présente de la manière suivante. 11 000 MW qui seront produits, plus ou moins 11 000 MW qui seront produits. 5 000 MW devaient aller, bien évidemment, à l'Afrique du Sud. Il y avait 3 000 MW qui étaient garantis pour la RDC. Et 3 000 MW, il n'y avait pas encore de preneur. Là, il y avait des pays comme l'Angola, le Nigeria, etc., sur qui l'ADEPI ou le gouvernement congolais comptait. Mais déjà, il faut noter que dans le 3 000 MW qui était prévu pour la RDC, la SNEL devait se partager avec les industries minières, alors que vous savez qu'il y a d'abord un grand déficit pour les miniers, et aussi autre chose, c'est que la SNEL, dans le cadre du projet Inga 3, n'est pas considérée comme un client solvable, ce qui allait faire en sorte que la grande partie sur les 3 000 MW réservés à la RDC devait aller bien évidemment vers les industries minières. Raison pour laquelle Nous avons toujours présenté cette crainte. Je me rappelle, en 2013, au moment où on parlait encore de 4800 MW, nous avons mené un plaidoyer parce que de par les estimations sur l'énergie qu'on devait donner à la population, allait entre 600 000 MW. Et nous avons mené un plaidoyer justement pour que cela soit garanti autour de 1000 MW et c'était un pari gagné. Mais bien que ça, tout ce qu'il y avait comme perte ou dans la transmission de l'énergie, il y a justement la notion de perte. Donc si c'est fait qu'il y a de perte, c'est dans le paquet de la population où on devait tirer ces mégawatts de perte. Et donc cela n'exclut pas que dans ce format où 3000 MW est prévu pour la RDC, qu'on retrouve encore ce genre de problème parce que on est à la recherche de fonds. Donc on va garantir de l'énergie pour le client qui est présenté comme étant solvable. Et ici, c'est le minier, c'est l'Afrique du Sud. Raison pour laquelle nous nous inquiétons fortement. Comme vous le savez, il y a moins de 8% aujourd'hui des populations congolaises qui ont accès à l'énergie. Et donc, il faut des solutions durables plutôt pour, n'est-ce pas, à augmenter les taux ou accroître le taux d'accès des populations. Donc notre crainte est bien fondée et elle est basée sur les chiffres officiels qui existent autour du projet Inga 3. Voilà pourquoi nous disons que si seulement il faut penser à l'accroissement du taux d'accès à l'énergie, nous estimons qu'il y a des solutions que le pays devra prendre dans un bref délai. C'est-à-dire, si on allait, par exemple, dans le sens de développer des micro-barrages par le pays, en moins de 3 ans, on peut construire quelques micro-barrages parce que la classe sur les énergies renouvelables démontre que le pays a plus de 100 000 MW et un peu partout, on peut construire ce barrage et on va accroître les taux d'accès à l'énergie.
Donc, voilà. En plus, monsieur Moussiou,
je vous écoute.
Oui, en plus de cette clé de répartition, vous parlez des conditions dans lesquelles les contrats ont été signés. Vous révélez que les contrats du projet Inga 3 ont été négociés à huis clos. Et pourtant, officiellement, il y a eu des négociations entre l'État congolais et la Banque mondiale. Et on a même parlé, on a parlé de certains chiffres, notamment un montant d'environ 14 milliards de dollars avec une puissance de 4800 mégawatts. Alors, à votre avis, l'opacité, c'est à quel niveau?
L'opacité est à tout le niveau. Pourquoi? Parce que, revenons sur l'ancien format Inga 3 Bashut, où on parlait de 4800 MW, il y avait certes des documents qui étaient signés, entre autres les traités qui étaient signés entre l'Afrique du Sud et la RDC. Comprenez que c'est un traité, mais jusqu'à aujourd'hui, on a essayé, moi j'étais reçu une fois par le responsable du projet, M. Bruno Kapanji, où on a posé le problème pour qu'il mette à la disposition de la population, qu'il mette à la disposition du grand public ces documents qui doivent être, n'est-ce pas, accessibles à tous. Mais ces documents n'est pas dans la circulation. Si vous allez sur Internet, vous ne les retrouverez jamais. Nous l'avons demandé, il nous a promis à maintes reprises, il ne l'a pas fait. Et donc ça c'est un problème. Mais en plus de ça, il y a des négociations qui étaient faites récemment avec les Chinois et autres. En tout cas, déjà, je ne sais pas si vous pouvez retrouver ces documents-là quelque part. Donc ça fait partie des éléments qui prouvent qu'aujourd'hui, il y a de l'opacité. Pour ne pas aller loin, l'ADP a été créé, si je ne me trompe pas, en 2015, pratiquement. Mais en 2018, il y a eu modification de la structure de l'ADP. Alors que c'est juste une modification par ordonnance. L'ordonnance devait être accessible. Quand on parle de l'opacité, aujourd'hui, si vous allez au niveau du journal officiel, vous n'allez pas retrouver l'ordonnance qui modifiait celle qui avait créé et nommé des animateurs au niveau de l'ADP. Et donc, c'est tous ces éléments qui nous poussent aujourd'hui à dire que il y a effectivement de l'opacité et nous décrions ce fait-là parce que c'est un projet qui concerne tous les Congolais et tous les Congolais doivent être saisis et comprendre les enjeux qu'il y a autour de ce projet.
Monsieur Moussiou, et donc si on comprend bien, les problèmes ne se posent pas avec le contrat initial avec la Banque mondiale, mais plutôt avec le contrat qui a été signé en 2018 avec le consortium sino-espagnol qui prévoit 11 000 MW, c'est ça?
Il faut noter que c'est vrai qu'il y a un sérieux problème d'information et nous le constatons encore davantage. Avec la Banque mondiale, il y avait certes un contrat qui était signé parce que la Banque mondiale avait accordé à la RDC une assistance technique autour de 74 millions de dollars pour un appui technique autour, qui devait en fait servir à la réalisation des études d'impact environnemental ou des études complémentaires carrément, on retrouve les études d'impact environnemental, mais aussi la structuration de l'ADP. C'était ça l'accord qui était signé avec la Banque mondiale. Comme bien avant, il y a eu un accord qui était signé avec avec la Banque africaine de développement autour de 73 millions de dollars, lequel contrat ou lequel appui de la Banque africaine de développement qui a permis de réaliser les études de préfaisabilité que nous avons aujourd'hui. Mais le grand contrat sur le développement du projet qui coûtera autour de 14 milliards de dollars, il faut noter qu'il n'existe pas encore. Mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Il y a un accord pour le développement exclusif qui a été signé au mois de décembre passé. Un accord pour le développement exclusif du projet Inga 3 qui a été signé entre l'ADP qui représentait le gouvernement congolais et le consortium constitué de deux composantes où on voit les pro-Inga. Pro-Inga, c'est les entreprises espagnoles et China Dinga 3, les entreprises de la Chine. Et ce contrat-là, qui aujourd'hui donne le développement, l'exclusivité du développement du projet à ces deux membres du consortium, n'existe nulle part. C'est vrai, ils ont signé ça, ils peuvent dire que voilà, ce sont des documents secrets, mais pourquoi ? Parce que la population a besoin de ces documents-là. Les analystes, les ONG, etc., ont besoin de ces informations qui sont plutôt importantes. Tout le monde doit savoir comment est-ce que les choses évoluent, et ça, ça fait partie de la bonne gouvernance.
Merci, merci Monsieur Moussillo. Nous allons vous redonner la parole. On avait annoncé l'ambassadeur Nicolas Kazadi à la place. Nous avons Monsieur Bruno Kapanji qui est responsable de l'agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga et ADP en sigle. Bonsoir Monsieur Bruno Kapanji. Monsieur Bruno Kapanji. Apparemment il n'est pas encore là. Alki Tengue, vous êtes stratège et analyste économique. Comment vous analysez ces rapports des GEC et des ressources Matters?
D'abord, moi, je suis encore une fois surpris parce que, très malheureusement, nos universités sont silencieuses. Nos ONG reçoivent l'information de seconde main. Ça veut dire que ce n'est pas elles qui produisent l'information. Ce sont les autres qui produisent l'information. Moi, je me pose la question de savoir comment expliquer que ces gens ont accès à des informations auxquelles les autochtones n'ont pas accès. Ça montre deux choses. Soit ils sont hyper efficaces, soit les nôtres sont totalement incompétents. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un très sérieux problème d'opacité. Vous savez, le processus de libéralisation du domaine d'électricité est très simple. Il y a une loi qui dit qu'on va verser la production, la distribution et le transport dans le secteur de l'électricité dans le domaine privé, dans le domaine public. Et en ce moment-là, il a été décidé également qu'on mettrait en place une autorité de régulation pour être en mesure de déterminer comment on marcherait. D'abord, l'entité que l'on a mise en place, la DEPI, est tout simplement illégale, il faut l'avouer. C'est quelque chose qui vient supra la loi. Et moi, je pense que tout le problème a commencé là-bas sur les motivations qui justifieraient cette entité. Mais qu'à cela ne tienne, il faut quand même que les gens se rendent compte que nous avons eu deux expériences ici. La première expérience, c'est Inga 1 et 2 avec Mobutu, 2750 mégawatts de développés. Et on a dit que c'était un éléphant blanc simplement parce que malheureusement, on n'avait pas de facteur de consommation de l'énergie. Pourquoi ? Parce que la production qui avait été faite à l'époque était faite sans aucune vision réelle à part la vision des Belges, celle d'alimenter le secteur minier. Nous sommes en train de reproduire exactement la même chose. Vous savez, ce n'est pas très raisonnable, ce n'est pas très stratégiquement intelligent de penser qu'on peut produire de l'énergie si nous n'avons pas un réseau de distribution. Le réseau de distribution, il doit être justifié par ce que nous désirons en réalité faire de ce pays. Ce que nous désirons faire de ce pays, et c'est ce que le chef de l'État dit tout le temps, nous devons être en mesure de donner du développement dans les 146 territoires, districts de ce pays et dans toutes les 26 provinces. Ça veut dire qu'en fait, nous devons avoir un réseau national, un réseau mère, prêt pour le futur, mais également nous devons savoir que, géopolitiquement parlant, nous avons un potentiel hydroélectrique extrêmement important, nous avons un potentiel solaire extrêmement important, nous devons avoir avoir la capacité de savoir que nous avons une vocation géopolitique importante. Ça veut dire qu'en fait, nous devons avoir la possibilité de donner du courant électrique aux uns comme aux autres, au nord comme au sud.
Et donc, cela pourrait constituer un préalable à la mise en œuvre de ce projet Ingatois. D'abord, avoir un réseau national de distribution.
Avoir un réseau de distribution lié à nos besoins de développement. C'est la première des choses. Et le chef de l'État, lors du Makutano, l'a dit de manière assez claire, nous avons pour vocation de créer l'équivalent du web Internet en énergie. Il l'a appelé lui-même WWE, c'est-à-dire World World Energy. Le chef de l'État l'a dit de manière assez claire, nous avons la vocation d'avoir un réseau prêt pour le futur, prêt pour accueillir tous les développements. Vous savez, des petits développements à gauche, à droite, ne donnent pas une cohérence ni une stratégie réelle. Si nous avons le réseau, ça devient facile de pouvoir refaire exactement la même chose au niveau des différentes productions. Et tout à l'heure, l'intervenant disait, oui, mais nous devons avoir un mix des petits et des moyens et des grands barrages. Mais bien sûr, tout ça n'est valable que lorsque nous avons un réseau qui accumule l'énergie et qui le ramène là où on doit le consommer dans une vision claire. Nous sommes là en train de commettre exactement la même bêtise que nous avons commis avec le code minier, où le modèle économique justifie justement que le Congo sera le dernier à être servi. On l'a vécu avec le code minier 1, on est en train de le vivre avec le code minier 2. Ce que je suis en train de dire est très simple, c'est que l'énergie est la seule chose que nous avons en une intensité que personne n'a au monde. Nous devrions avoir une vision claire, nous devrions en parler de manière honnête et claire, et nous devrions déterminer de quelle manière nous le faisons.
Alors, à votre avis, comment dans les contrats, le gouvernement congolais accepte que la RDC soit la dernière à être servie?
Non, ce n'est pas le gouvernement qui accepte. C'est la DEPI a accepté au nom du gouvernement. La DEPI ne représente pas le gouvernement, ce n'est pas un organe de gouvernement.
Mais engage le gouvernement congolais.
Ça me semble bizarre. Et ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, nous devrons être en mesure de savoir ce que nous voulons réellement faire de ce pays. Si on le définit, on évite des erreurs du genre. On a aujourd'hui des barrages électriques que l'on a mis en place et on n'a pas le réseau de distribution. On a Kakobola qui attend, on a Zongo 2 qui est là et on ne sait pas où on voudrait amener cette énergie. Je pense qu'il faut rester cohérent, nous gaspillons beaucoup trop d'argent. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que l'économie et l'intelligence économique partent de l'aval à l'amont et pas l'inverse. Et donc avant de parler de la production, on doit savoir parler du transport et de la distribution. Où est-ce qu'on désire amener l'énergie électrique? Sommes-nous prêts et nous avons-nous un réseau prêt pour le futur? Ça, c'est les grandes questions stratégiques qu'il faut se poser. Il faut éviter de prendre des engagements en cachette, comme on en a fait malheureusement du temps du contrat chinois, comme on l'a fait aujourd'hui avec Inga 3, qui sont des choses en fait qui concernent toute la République qu'il faut traiter en toute transparence.
Voilà. Et cette question des répartitions s'est-elle posée avec les contrats initiaux avec la Banque mondiale avec les consortiums espagnols?
Il faut déjà regarder le modèle économique qui est dessus. C'est le build, operate and transfer. Ça veut dire qu'en fait ils vont mettre en place les installations de production et de distribution, ils vont opérer, se payer, alors seulement ils vont nous remettre les installations.
Ils vont c'est les consortiums.
Mais bien sûr, c'est aussi clair que ça, qu'ils ont le monopole sur l'exploitation. Ça sous-entend qu'en fait, même en termes de propriété, pendant tout le temps d'exploitation, l'installation ne nous appartient pas. Moi, je le dis de manière
tout à fait simple. On ne peut pas parler d'une sorte de bradage. Est-ce qu'on n'est pas en train de brader le patrimoine?
Nous sommes là dans un contrat léonin pour ce qui nous concerne. Je l'ai toujours dit, il ne s'agit même pas de Inga 3, il s'agit du grand Inga et il s'agit du reste du potentiel hydroélectrique. Il s'agit également du potentiel solaire dont nous disposons. Le tout mis ensemble, nous sommes aux alentours des 170 gigawatts de potentiel d'énergie propre. Il faut en avoir l'intelligence globale. Il faut être en mesure de prendre ça dans un projet global. Je voudrais vous donner un indicateur. Tout ça mis ensemble, c'est des revenus annuels aux alentours de 120 à 130 milliards de dollars. Nous n'avons rien de pareil, ni dans le secteur minier, ni dans le secteur pétrolier. Alors je me pose simplement la question, pourquoi on n'en fait pas un grand débat national et comme ça on lève les options? Nous avons eu un président qui a fait 18 ans au pouvoir. Il aurait commencé et terminé ça. Il ne l'a pas fait. Nous sommes en train de commencer une autre mandature et nous allons perdre autant de temps en train de tourner en rond simplement parce que nous sommes incapables de faire les choses dans la transparence. Et ça, c'est vraiment dommage. Et
il a aussi dit que même les consortiums, sinon espagnols, ils ne s'attendent pas en fait.
Ils commencent à se disputer parce que finalement les non-dits d'hier, qui étaient sous le patronat du dictat politique, sont en train de ressortir. Aujourd'hui, ils commencent à se poser la question de savoir quelle est la responsabilité de qui et qui est censé engager quoi et quelles sont les parts au niveau de la redistribution. Si tout ça se passait sur le plan de la transparence totale au niveau de la bonne gouvernance, ça aurait été différent. aujourd'hui, il va sortir des choses qui se sont dit hier que personne n'a voulu faire savoir. Et je pense que le courage demanderait qu'on mette tout ça à plat. Je pense qu'il faut stopper tous ces engagements, être à mesure de faire un rappel, y compris en travaillant avec les opérateurs qui sont en face, mais trouver un deal correct. Laissez-moi juste terminer une chose. Nous avons un projet similaire, le port en eau profonde. Personne ne sait ce qu'il en est. On signe des contrats à gauche, on signe des contrats à droite.
Un vieux projet aussi.
Et chaque jour qui passe, on perd le temps et on perd des opportunités et il y a des populations qui souffrent. Je pense qu'il est important qu'on fasse un shift nécessaire pour que nous allions vers une gouvernance ouverte où toute l'information publique est à la place publique.
Alors, ce contrat qui est mis en cause aujourd'hui a été signé pendant l'ancien régime. Maintenant, nous avons un nouveau leadership à la tête du pays. Est-ce que il n'y a pas opportunité de solliciter de nouveau la Banque mondiale?
Je pense que la Banque mondiale ou n'importe quel autre partenaire, c'est tout à fait faisable. La seule chose, c'est le citoyen congolais. Je pense que tout le potentiel énergétique de ce pays appartient au peuple congolais. Il n'appartient ni à un président honoraire, ni à un président qui est là en place. Ce n'est pas à eux qu'il faut demander ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut demander, c'est quelle est l'opinion générale sur notre potentiel hydroélectrique et notre potentiel solaire. Nous n'avons jamais répondu à cette question en ce qui concerne notre potentiel minier. C'est pour ça qu'on tourne en rond jusqu'à présent. Des individus se retrouvent, ok, parfait, mais toute la République est en train de perdre de manière tout à fait inacceptable. La même chose va nous arriver avec l'énergie électrique qui aurait pu être à la base d'un grand développement interne mais surtout d'un positionnement géopolitique extrêmement important. Je pense qu'il est important qu'on fasse précéder la réflexion collective aux opérations et je crois que si nous concevons bien les choses, il va être très facile de pouvoir dérouler le projet.
Alors, dans quel contexte pourra-t-on privilégier ces débats nationaux que vous avez prônés lorsque on sait que c'est l'opacité qui prend qui est plutôt des mises.
C'est là que moi je reviens à celui que vous avez cité tout à l'heure, l'actuel chef de l'État. Il nous prône l'état de droit et il dit qu'il voudrait avoir une transparence au niveau de la gestion de l'État. Ça, c'est une question fondamentale qu'il faut remettre à plat. Et je pense qu'il devrait appeler un grand débat sur les questions énergétiques du pays. On ne parlera pas seulement de Inga 3, on parlera de tout le potentiel national. Vous savez, ce n'est pas très stratégiquement intelligent de penser qu'on peut mettre en place un réseau aujourd'hui et demain quand on augmente la production on fait un deuxième réseau, le jour où on augmente encore on fait un troisième réseau. Non, l'intelligence voudrait qu'on ait un réseau prêt pour le futur, qui connaît un petit peu le développement que nous aurons. Un réseau qui engendre le développement que nous voulons. Un réseau qui engendre notre capacité à interférer avec nos voisins et les gens qui sont sur le continent avec nous. Vous savez, l'Europe tout entière est sur un seul réseau. Nous devrions être en mesure d'être à la base de ce WWE que prend le chef de l'État pour être en mesure non seulement de donner du courant aux pays africains, mais également nous connecter au réseau européen, être en mesure de vendre. Je le dis de manière assez claire, l'énergie électrique est une marchandise. C'est le seul plus grand levier que nous avons pour être en mesure de passer d'une économie des pays pauvres à un pays non seulement émergent, mais un pays riche. Et nous avons suffisamment de moyens là-dedans.
Merci Emmanuel Moussouyou. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Mon père, de Bukavu au sud Kivu. Je pense qu'il n'est pas mauvais que le projet Inga 3 soit les jours à venir affecté à l'exportation et aux industries minières. Avec l'exportation, il y a lieu que l'électricité issue de ce projet soit une autre source sûre des devises du pays. Et avec les industries minières, elle pourrait assurer la transformation locale des minerais et ainsi leur donner une valeur ajoutée afin qu'ils soient compétitifs sur le marché mondial. Inga 1 et 2 peuvent alors être bien gérés pour servir la population congolaise. Dans ce cas, il serait mieux de résoudre les différents problèmes de planification liés au secteur de l'énergie électrique de la RDC pour que la population congolaise puisse s'y retrouver réellement.
Emmanuel Moussouyou.
Merci beaucoup. En tout cas, je félicite en fait l'intervention qui est venue avant moi de M.
Alkitengue.
Il est dans la même logique que nous. Et déjà, la question qui est posée tout à l'heure ou la réflexion qui a été lancée par notre ami de Bukavu, c'est justement là qu'il y a le vrai problème. Comprenez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une politique nationale énergétique adaptée. Nous n'avons pas une planification énergétique. Ça, c'est un sérieux problème pour un pays. M. Alkitengue tout à l'heure parlait de construire un réseau de distribution. Oui, je suis d'accord, mais je pense que la bonne réflexion doit se faire sur la politique et la planification énergétique. Le pays envisage quoi d'ici les années qui viennent, alors que nous avons un potentiel qui peut alimenter toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, mais
comment est-ce qu'on met en place, c'est quoi les stratégies qu'on met en place pour que ce potentiel soit réel. Vous voyez, donc je suis d'accord avec monsieur, mais je pense que le pays a un potentiel assez énorme qui peut aider au développement de plusieurs stratégies, de plusieurs initiatives de par le pays qui pourraient, n'est-ce pas, arriver à résoudre, à répondre aux besoins des miniers qui ont besoin de transformer leur matière première. Et donc, cela ne passe pas nécessairement par le projet Inga 3. Écoutez, je veux dire ceci. Déjà, Inga 3, si il faut aller dans la logique des choses et attendre que le projet puisse être effectif, on ne le verra pas avant 8 ans. Et c'est même relevé dans le rapport qui a été publié. Donc, avant 8 ans, le projet ne sera pas effectif. Et dans les documents officiels qui étaient partagés, on parle de plus ou moins 8 ans. Donc, ce qui fait que pendant toutes ces années, le pays sera dans le noir carrément, où les industries minières, qu'est-ce qu'ils feront? Et c'est là que nous pensons que la solution aujourd'hui, pour répondre à la préoccupation de notre ami de Bukavu, c'est qu'il faut que le pays, effectivement... On pensait que les assises de Matadi devaient nous conduire, n'est-ce pas, à une bonne réflexion pour avoir une politique nationale énergétique et une stratégie, mais on ne sait pas c'était quoi le résultat de ce forum de Matadi. Le président de la République a tout intérêt, comme l'a suggéré mon prédécesseur. On a besoin d'un débat, un vrai débat, un débat d'experts, un débat de Congolais sur les solutions que nous pouvons apporter par rapport au secteur énergétique. Inga 3, c'est un projet qui fait rêver, mais Inga 3, pratiquement, on n'a pas les capacités de les développer aujourd'hui. Sur le plan financier, sur le plan technique et sur d'autres plans. Parlant du PPP qu'a évoqué tout à l'heure mon prédécesseur, nous, on relève quelques problèmes. Entre autres, d'abord, la capacité de négociation des contrats. Est-ce que le pays a une expérience pour négocier un grand contrat, un contrat qui pourra coûter plus de 14 milliards de dollars? Je ne pense pas. Déjà, on peine à gérer des petits projets PPP qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Ça, c'est un sérieux problème. Il y a un autre problème sur les conséquences que cela pourra avoir. Parce que, selon l'expérience, aucun barrage, surtout des grands barrages au monde, n'a été réalisé pendant les années telles que c'était prévu au départ.
Merci.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 8 ans, donc on peut s'attendre à un barrage, peut-être s'il faut aller, on peut s'attendre à la consommation du premier mégawatt 10 ans après, 15 ans après. Mais plus les années sont élastiques, plus il y a des conséquences sur l'investissement. Et
merci.
Cela doit être récupéré parce que, vous voyez, les privés ne viennent pas pour le social, ils ont leur intérêt économique. Et donc, cela doit être récupéré. Et on pense que la conséquence majeure sera sur le prix, surtout que devra payer les communautés, alors qu'il y a des solutions durables, moins chères, que le pays devra développer.
Mais merci, aussi pour finir,
je voudrais parler aussi au fait de ce problème lié au leadership. On a parlé tout à l'heure que pendant plus de 30 ans, plus ou moins 30 ans, la concession sera entre les mains de ces développeurs, parce que c'est le BOT. C'est quoi le leadership que l'État congolais aura sur ce projet-là? Alors qu'on est en train de nous montrer que les BOT, c'est ça le ciel, pendant que le gouvernement, eux-mêmes, la DPI, le disent, ils n'auront pas, n'est-ce pas, une grande partie une grande partie à financer le projet. Et donc, ça sera les privés qui auront plus de 80% de l'investissement.
Merci, M. Moussouyou.
Ça sera quoi, là, le leadership du pays dans le projet Inga 3?
Merci, nous allons vous redonner la parole. Je me signale que M. Bruno Kapandji est là. M. Bruno Kapandji, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà,
bonsoir,
je rappelle
à tous vos auditeurs.
Je rappelle que vous êtes. Merci que vous venissez aussi. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Agence pour le développement et la promotion des projets, du projet Inga, Grand Inga, ADP. Et comment vous réagissez au contenu, n'est-ce pas, du rapport de ces deux ONG, Ressources Matters et puis le groupe d'études sur le Congo, qui affirme que la population congolaise risque de ne pas bénéficier de l'électricité du projet Inga 3?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à vos auditeurs. D'abord, je voudrais bénir Dieu parce que ces ONG ont publié ce rapport. Je les ai reçus deux fois avant la publication, mais aussi Ils m'ont plusieurs fois contacté avant qu'ils publient, qu'ils me montrent, qu'on parle. J'ai toujours dit non, publiez votre rapport. Et ce rapport, je l'apprécie sur deux, trois plans. Le premier plan, d'abord, je suis heureux car ils annoncent qu'il existe un projet Inga 3. Ça, c'est une bonne chose parce que personne ne croyait au projet Grand Inga, surtout sa première phase, Inga 3. Aujourd'hui, les ONG communiquent, annoncent à l'opinion nationale et internationale qu'il existe un projet Inga 3. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième élément de mon appréciation, c'est que ce rapport, bon, je le juge un peu un rapport comme, je dirais, des reporters, un peu trop d'amateurisme et tout. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils communiquent, surtout dans les chiffres.
Quelles sont les erreurs là? Quels sont les chiffres qui sont erronés et qui sont contenus dans ces rapports, monsieur Bruno Kapanji?
Pardon?
Quels sont les chiffres erronés contenus dans ces rapports?
Mais, par exemple, ils annoncent un projet de 10 000 mégawatts. Nous n'avons pas un projet de 10 000 mégawatts. Nous avons un projet de 11 050 mégawatts. Premier chiffre. Deuxième chiffre. Ils disent que toute la production sera pour l'extérieur et qu'il n'y a que 2 000 qui sont réservés à la République. Et puis, on ne voit pas clairement dans ce dossier quelle est la part réservée ou à la population congolaise, ce qui est tout à fait faux. Nous avons un projet de 11 000 mégawatts. Dans les prévisions actuelles, il y a 5 000 mégawatts que l'Afrique du Sud va acheter et qu'elle a déjà confirmé par écrit. C'est une lettre de décembre de l'année dernière, sur base du traité que nous avons avec l'Afrique du Sud. Et puis, il y a 6 000 mégawatts qui restent pour le Congo. Et au Congo, la répartition se fera en fonction de la demande. La demande des miniers au Katanga et des populations du Katanga, du Kassai, des deux Kassai et des Bandundu, et aussi d'autres, des grands Katanga, je veux dire. Et puis, il y a aussi 3 000 qui restent pour la SNEL, qui va les distribuer dans la grande province du Congo central, le Bandundu, l'Équateur, parce qu'il y a tous ces projets qui existent. Le projet Grand Inga, c'est un projet qui va booster tout dans notre pays, à commencer par Inga 3. Donc, c'est fait pour le Congolais, par le Congolais. Et il est dirigé par le chef de l'État et le gouvernement et les institutions du pays. Toutes les lois qui ont été votées, à commencer par la loi sur l'électricité, a préparé l'exécution de projets comme Inga, comme d'autres projets dans le cadre du programme de village moderne, avec des microcentrales, ou dans le cadre de projets de moyenne puissance que gère le ministère de l'énergie. Donc tout est fait dans le cadre d'une politique cohérente.
Monsieur Bruno,
c'est là le projet Inga. C'est pour le Congo, par le Congolais et dirigé avec le leadership des Congolais, mais avec l'appui des partenaires. Premier partenaire, c'est la Banque africaine de développement.
Monsieur Bruno Kapanji. Monsieur Bruno, avant de parler des partenaires, est-ce qu'on peut revenir sur la clé des répartitions? Vous avez évoqué des chiffres, vous confirmez qu'il s'agit, il est prévu 11 000 mégawatts, et sur les 11 000 mégawatts, 5 000 vont aller en Afrique du Sud, et 6 000 en RDC, et beaucoup plus particulièrement aux miniers, selon les besoins des miniers, et 3 000 mégawatts.
C'est vous qui dites plus particulièrement. J'ai dit aux miniers et à la population. N'ajoutez pas autre chose à ce que je vous dis. Il y a 6 000 pour la République démocratique du Congo. Pourquoi on exporte, on vend 5 000 mégawatts? On ne donne pas, on va vendre. Nous allons gagner de l'argent sur cette vente. On va diversifier les sources de revenus de notre pays. Au lieu de compter seulement sur les mines, nous allons compter sur l'électricité. Si vous vous rendez compte, c'est entre 2-3 milliards de dollars chaque année. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Donc, il y a 6 000 pour la population congolaise et l'industrie congolaise. Notre pays est sous-industrialisé. notre pays est sous-électrifié. Pour le faire, nous devons exploiter ce que Dieu a mis à notre disposition, qui est le potentiel de 42 000 mégawatts qui se trouve coincé sur le site de Yinga.
Mais si nous
ne pas les utiliser, serait véritablement diabolique. Parce qu'il n'y a que les sorciers et les diables qui n'aiment pas la lumière.
Mais
là, nous allons avoir et la lumière et l'électricité pour nous développer, pour nous industrialiser et pour nous éclairer.
Voilà, nous allons suivre avec vous cette réflexion qui vient de Kinshasa, à laquelle vous allez réagir.
Je m'appelle Fischer, je suis à Kinshasa, précisément dans la commune de Massina. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un gouvernement peut signer un contrat avec les partenaires extérieurs qui doivent exploiter l'électricité dans notre pays sans que notre pays en bénéficie. C'est là le problème. Nos heureux députés doivent en parler. Notre pays maintenant, surtout la ville de Kinshasa, est plongée dans le noir parce que nous n'avons pas de courant. Mais comment le gouvernement passé ou le gouvernement actuel a pu signer un contrat qui le courant de la RDC peut bénéficier seulement aux partenaires qui viennent exploiter et non au pays lui-même? Les députés ne sont pas là seulement pour défendre leurs intérêts et leur vie propre. Qu'ils défendent les intérêts de la population congolaise.
Bruno Kapandji.
Merci beaucoup pour mon frère de Massina. Je crois qu'il doit me connaître parce que quand je suis ministre de l'énergie, j'étais tout le temps à Massina, soit pour lancer une cabine, soit pour lancer un projet. Tout ça, et même le projet de l'eau, il doit s'en souvenir. Bien, notre pays a une politique énergétique. Tout homme, toute société, tout État doit avoir une vision, un rêve. Le rêve de notre pays, c'est de faire de ce pays une puissance énergétique. Le rêve de notre pays se trouve à l'article 48 de notre Constitution qui dit que l'État doit assurer à chaque Congolais accès à l'eau potable et à l'électricité. Ça, c'est une vision que nous devons mettre en pratique. Mais pour le mettre en pratique, nous devons savoir quelle est notre situation. Nous avons un potentiel de 100 000 mégawatts sur l'ensemble du pays, mais 44 000 sont à Yinga. Deuxièmement, notre pays aujourd'hui est sous-industrialisé et sous-électrifié parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous ne produisons que 2000 mégawatts sur un potentiel de 100 000, vous vous rendez compte? Donc, l'État a cette politique-là. Alors, pour atteindre cet objectif, par exemple, comme le président de la République a dit, il va atteindre 30% de taux d'accès à l'électricité. Pour ça, il faut produire cette électricité.
Merci.
Et cette électricité, on la produit à travers les micro-centrales, les petites centrales, mais essentiellement sur...
Merci, M. Kapandji.
Merci, nous allons
vous redonner la parole. Nous allons vous redonner la parole pour conclure. Monsieur Al Kitenge, vous allez réagir à cette réflexion qui vient d'Ecologie.
Tout le monde dira à partir d'Ecologie. Si dans ce rapport, les ONG craignent que ce courant soit destiné tout d'abord pour l'exportation et usage minier ou industriel. C'est tout simplement parce que la population a toujours été servie en dernier lieu et en délaissage. Car la SNEL, comme toute entreprise commerciale, vise d'abord l'intérêt. Et l'intérêt à gagner dans ce genre de contrats de fourniture du courant auprès des entreprises minières font entrer beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est aussi grâce à de tels contrats que l'État trouve les moyens pour financer sa politique. Cependant, du fait que les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire la population, n'est pas bien servie, est-ce que ça vaut la peine d'envisager une quelconque exportation?
Monsieur Al-Kitenge.
On pose le mauvais problème, on résout le mauvais problème. Vous savez, même lorsque Félix Tshisekedi parle de l'énergie, il ne parle pas de l'éclairage pour les individus. Il parle de l'énergie industrialisante qui crée la richesse sur l'étendue de la République et qui donne du pouvoir d'achat aux citoyens qui, en contrepartie, peuvent s'acheter le courant pour faire ce dont ils ont besoin au quotidien dans leur famille. Et donc, il est important que, au niveau supérieur, la réflexion soit stratégique. Il s'agit de ce qu'on appelle...
Que l'information circule d'abord.
Que l'information soit transparente. Il s'agit d'un mix énergétique. Il s'agit d'une approche multisectorielle. Il s'agit d'une approche multivecteur. Il faut être en mesure de réfléchir au niveau le plus élevé. On ne résout pas tous les problèmes de la même manière. Maintenant, toute la question est de savoir comment on va rapidement donner des réponses à ceux qui ont été défavorisés, les 80% de la population qui vit en milieu rural. C'est une autre stratégie. Lorsqu'on parle de la question de Inga et on parle de la question des 110 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique dans notre pays, on parle de la stratégie. Comment nous faisons pour que nous puissions convertir cela en argent et qu'on développe notre pays? Et il faut savoir que deux choses importantes méritent d'être faites. Un, de décider du modèle économique. Deux, de décider de ce qu'on voudrait faire de l'énergie sur le territoire congolais. Jusqu'à présent, on ne l'a pas décidé.
Et à cet effet, il faut faire quoi? Il faut résilier tous les contrats qui ont été signés jusque-là pour répartir de nouvelles bases?
Non, il faut restructurer. Résilier n'est pas nécessairement le mot, mais il faut restructurer en toute transparence avec une vision sur le moyen et le long terme. Nous n'avons pas une stratégie minière jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas une stratégie industrielle jusqu'aujourd'hui et nous n'avons pas une stratégie énergétique. Et c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Lorsqu'on le mettra sur la table et qu'on décidera d'être transparent, il sera assez scientifiquement facile de discuter des questions de développement de ce pays.
En conclusion,
soyons transparents. Il faut annuler la DPI, c'est une structure complètement illégale. Il faut opposer l'autorité de régulation et nommer les animateurs et jouer en toute transparence.
Merci, Monsieur Manuel Moussouyou. Votre conclusion?
Oui, merci beaucoup. Donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, comme on l'a dit, il y a d'autres problèmes qu'on n'a pas pu évoquer ici. C'est vrai qu'on était focus sur la question liée à la gouvernance, mais il y a tout ce problème lié aux études. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études complémentaires qui devaient nous renseigner sur les impacts environnementaux et sociaux. Il y a des manières spécifiques sur ces débats. Il n'y a pas eu d'études qui étaient axées au fait sur les demandes de l'énergie.
Mais lorsque vous suivez Monsieur Bruno Kapandji qui pilote ces projets, apparemment tout évolue tout naturellement dans la cohérence, dans la transparence.
Oui, c'est selon lui. Nous n'avons pas d'informations. La population n'a pas d'informations. Et donc ça, c'est un sérieux problème. Les projets ne doivent pas être conduits selon un acteur qui n'est pas responsable d'une structure.
Merci, Monsieur Bruno Kapandji. Votre conclusion?
Merci beaucoup. L'ignorance des uns ne doit pas être prise en considération comme une ignorance générale. D'abord, c'est une insulte. Même dans ce rapport, on a dit que les autorités congolaises, les ministères, la présidence, le Parlement ne sont pas associés. Mais ça, c'est une insulte vis-à-vis de nos autorités.
Et donc, il n'y a pas opacité, tout est transparent.
La loi sur l'électricité a été initiée par le gouvernement, votée par le Parlement, donc Sénat, Assemblée nationale, et promulguée par le chef de l'État. Ça, c'est un. De deux, le projet Inga a comme basement juridique cette loi-là.
Merci, M. Bruno Kapandji. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Dire, on est à la fin de l'émission.
Terminer. Trois, nous avons une politique énergétique.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission et bon suivi de programme sur Radio Capital.